VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RCA, selon Human Rights Watch, 45 personnes ont été tuées et 11 000 déplacées ces trois derniers mois dans le pays suite à des attaques de groupes armés contre des civils. La Centrafrique sort à peine d'une guerre civile meurtrière. Louise Mudge, chercheur à Human Rights Watch, nous fait un état des lieux.
Il y a deux groupes des ex-sénégalais qui continuent de s'affronter entre eux. Et le niveau de cette violence continue d'augmenter. Donc, en novembre 2016, en décembre 2016, en janvier et en mars 2017, et maintenant en avril et mai 2017, on a constaté plusieurs dizaines de civils qui étaient tués et ciblés d'ailleurs par des groupes armés. Lorsqu'on parle de groupes armés dans cette zone, on parle de deux groupes des ex-Seleka, les FPRC et les UPC. Donc, bien sûr, il y a la présence de les Nations Unies, mais selon New Human Rights Watch, cette nouveau des gens qui continuent d'être tués, c'est complètement inacceptable.
Louis Mudge, chercheur à la division Afrique de Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York. Le 3 mai est la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la protection des journalistes et à cesser toutes les formes de répression à leur rencontre. Pour sa part, Amnesty International a exhorté les autorités de la RDC hier à rétablir sans condition le signal de RFI à Kinshasa. John Lindon.
Le signal de RFI est coupé depuis le 5 novembre 2016 à Kinshasa, alors que devait se tenir une manifestation interdite de l'opposition contre le président Joseph Kabila. L'ONG des défenses et des droits de l'homme dénonce donc cette coupure arbitraire et prolongée et demande sa réouverture sans condition. Dans ce texte publié la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Amnesty exhorte également les autorités congolaises à garantir et protéger les libertés de la presse et de l'information. Amnesty, citant Reporters sans frontières, a noté qu'en RDC, les professionnels des médias sont régulièrement arrêtés arbitrairement, tabassés, humiliés, leur matériel saisi. Le pays occupe la 154e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. Pour Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, on ne s'adresse pas à un gouvernement par voie de communiqué de presse. La RDC ne réagira donc pas à cet appel.
Suite de notre série de reportages sur la situation humanitaire autour du lac Tchad, l'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pineau, nous parle des personnes déplacées par les attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la région. Son reportage à Bagassola, au Tchad.
Assis sur des nappes, posés sur le sable brûlant, ces déplacés tchadiens attendent. Attendre, c'est leur activité principale dans ce camp situé à quelques kilomètres à la sortie de Bagassola. Attendre l'aide alimentaire distribuée une fois par mois ou attendre l'ouverture du centre de santé. Ces Tchadiens sont chez eux, mais comme 120 000 déplacés autour du lac Tchad, ils ont fui les atrocités de Boko Haram il y a 2 ans déjà. Idriss Adam est un colosse de 40 ans. Il a quitté son village de Boularigui.
Boko Haram a attaqué le village et a mis le feu aux maisons. On est parti parce qu'ils ont égorgé plus d'une dizaine de personnes. Moi, j'ai perdu mon plus jeune frère. On s'est sauvé à travers les îles du lac.
Dans le camp voisin de Darnaïm, Saleh Youssouf a une histoire à peu près similaire. Ce berger nomade est revenu au Tchad après 30 ans d'absence. Il avait fui la DDS de Hissène Abré dans la région du Bata dans les années 90. Après avoir erré entre le Nigeria, le Niger et le Cameroun, Saleh Youssouf a dû rentrer au pays après avoir croisé la route de Boko Haram.
Boko Haram a bloqué notre passage et nous a dit « Si vous passez, on vous tue ». J'avais des chameaux, des chèvres, des bœufs, etc. Boko Haram est venu et m'a dit, si tu veux vivre normalement, viens avec nous. Sinon, tu dois tout abandonner et partir. C'est ce que j'ai fait, j'ai fui.
Ces Tchadiens et leurs familles, qu'ils soient déplacés ou retournés, n'espèrent pas forcément rentrer chez eux. Loin de tout service public et de la protection de l'État face aux djihadistes, ils ont trouvé dans les camps un semblant de normalité, notamment la sécurité et l'accès à l'école pour les plus jeunes. Écoutons Dimouya Swapébé, il est le préfet du département de Kaya.
Nous ne sommes pas très sûrs que tout le monde sera demandé à repartir. Parce que la présence de l'État faisait problème. Il y avait des difficultés dans l'accessibilité dans différents coins des îles du lac Tchad. Donc à ceux-là, nous avons l'intention de leur aménager leur site de déplacer là pour leur nouveau village. Et nous allons toujours appeler la communauté humanitaire à les appuyer là, pour que ça soit leur nouvelle maison, leur nouveau village.
Les derniers combattants de Boko Haram sont retranchés dans les îles du lac Tchad ou l'État de Borno. Leur défaite probable prendra encore des mois, mais les déplacés de Bagassola ne souhaitent pas retourner dans leur village et vivre une nouvelle incertitude. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pineau, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise en Libye, les Émirats arabes unis se sont dit optimistes sur une solution de la crise après les entretiens à Abu Dhabi entre les deux principaux protagonistes du conflit libyen. Les autorités de cet État du Golfe arabo-persique demandent instamment à l'ONU de nommer un nouvel émissaire pour la Libye. Idrissa Seydoudia.
Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale soutenu par l'ONU et l'Occident, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, chef des forces armées des autorités parallèles basées dans l'est du pays, ont tenu leur rencontre à Abu Dhabi pour tenter de trouver un terrain d'entente sur un règlement de la crise. La rencontre suscite de l'optimisme quant à une solution politique en Libye, a souligné le ministère des Affaires étrangères des Émirats, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ici, un allié du maréchal Haftar, tout comme les Émirats arabes unis, est attendu mercredi à Abu Dhabi, mais il n'est pas clair si cette visite de deux jours est liée ou non au pourparlers interlibyen. Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont souligné la nécessité de nommer un nouvel émissaire de l'ONU en Libye. L'ONU a proposé le Palestinien Salam Fayyad pour remplacer l'actuel émissaire Martin Kobler, mais les États-Unis y ont mis leur veto, ce dont s'est félicité Israël.
Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump poursuit ses discussions avec les leaders étrangers. Après sa conversation téléphonique mardi avec son homologue russe Vladimir Poutine, le chef de l'exécutif américain reçoit pour la première fois aujourd'hui à la Maison-Blanche Mahmoud Abbas, le président palestinien. L'entretien téléphonique d'hier entre le président Trump et Vladimir Poutine était la première conversation entre les deux leaders depuis que la Russie a condamné les tirs de missiles américains contre une base syrienne. Le point avec Lionel Gaïma.
Les présidents Trump et Poutine ont discuté de la guerre en Syrie, rapporte la Maison-Blanche qui qualifie cette conversation de très bonne. Des responsables du Kremlin cités par les médias russes parlent de leur côté d'une conversation sérieuse et constructive. Toujours selon le Kremlin, les deux parties ont convenu que leurs chefs de diplomatie, Rex Tillerson et Sergei Lavrov, intensifient les discussions pour un cessez-le-feu en Syrie. Les présidents Trump et Poutine sont d'avis que la souffrance a trop duré en Syrie et que toutes les parties doivent tout faire pour mettre un terme à la violence, a fait savoir la Maison-Blanche. La Russie organise des pourparlers sur la Syrie ce mercredi à Astana, au Kazakhstan. Les États-Unis enverront un représentant à cette rencontre à laquelle participeront l'Iran et la Russie. Une précédente série de négociations conjointement organisées par la Russie et les États-Unis sous l'administration Obama n'avait rien donné.
Présidentielle en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux candidats au second tour de dimanche que tout oppose, s'affrontent ce soir lors d'un débat télévisé crucial à 4 jours du scrutin. Les deux finalistes promettent de se livrer un duel féroce à 19h, temps universel devant plusieurs millions de téléspectateurs, Jacques Aristide.
Le débat va durer environ 2h30. Les candidats ont allégé leur agenda pour préparer ce duel décisif. Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir laisser à son adversaire du Front National la possibilité de continuer à dire des contre-vérités dangereuses. Marine Le Pen assure pour sa part qu'elle défendra ses convictions et une politique totalement différente, dit-elle. En 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec son adversaire surprise. Le fondateur du parti d'extrême droite et père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Mais Chirac avait bénéficié à l'époque d'un front républicain qui lui avait permis d'être réélu avec plus de 80% des voix et qui, cette fois, a volé en éclats. Emmanuel Macron, arrivé en tête avec son parti En Marche au premier tour le 23 avril, veut solidifier l'avantage de 20 points dont le créditent les sondages sur sa rivale. Il tente d'attirer les électeurs du candidat Jean-Luc Mélenchon, arrivé quatrième au premier tour.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.